Et la suite de ce magazine, c'est avec le village d'Ossun et l'actualité et l'histoire d'Ossun grâce à Bernard Sarès qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Les Amis de Saint-Blaise, une association qui va publier dans quelques jours un livre qui sera disponible dans le courant du mois d'avril. D'ores et déjà, la souscription est ouverte. Elle permettra d'acquérir l'ouvrage à un prix préférentiel. Donc la souscription se termine le 24 mars. On en parlera dans un instant. Un livre donc qui va sortir au courant du mois d'avril. C'est pour nous l'occasion de mieux découvrir ce village et l'histoire de ce village d'Ossun, ce village qui se trouve entre Tarbes et Lourdes, grâce à vous, puisque vous avez vraiment mené une enquête pour publier ce livre de 350 pages. Je crois que vous êtes remonté aux alentours du 8e siècle pour commencer ce livre.
Alors, on est même parti avant, mais je vous fais grâce du néolithique et du paléolithique. Hein. On s'est inspiré là-dessus du travail de la thèse en doctorat de Paul Laventure, de l'historienne du village qui était l'abbé Francès. Nos recherches, nous avons commencé à piocher, si je peux dire, à partir de 733, exactement du 24 mai 733, date qui est censée être l'événement majeur de la plaine d'Ossun, de l'Anmourim, la bataille contre les Maures. Le 24 mai 733. Alors, on est là dans cette bataille contre les Maures entre la légende et le fait historique. Les uns penchent vers la légende, les autres le fait historique. Nous avons tenté de démontrer que cette bataille était bien plus proche du fait historique que de la légende. Et nous avons essayé de l'indiquer à partir de l'identité du chef de bataille qui était Mesclin, le fameux Mesclin, que certains nous indiquent mort, et c'est vrai, il est mort depuis dans les années 400 ou 500, entre 400 et 500, et donc il ne pouvait pas être en 733 à la bataille de l'Anmourim à Ossun. Et donc la question qui s'est posée, est-ce qu'il y avait plusieurs Mesclins? Voilà. Et donc, je ne vais pas vous dévoiler tout ça, mais peut-être que nous avons trouvé d'autres Mesclins chefs de guerre. Voilà.
Dans le livre aussi, on apprend énormément de choses hein, sur la commune d'Ossun. Pour les gens qui ne le savent pas, Ossun avait son château.
Oui, Ossun avait son château. Alors, beaucoup pensent qu'il s'agissait du château Margaux, puisqu'il y avait une construction qui dominait le village, qui s'appelait le château Margaux, et que moi, malgré mon âge avancé, je n'ai connu qu'à l'état de ruine. Et étant gosse, on est allé s'amuser, avec tous les risques qu'il pouvait y avoir dans une ruine, les cailloux qui tombent, etc. Mais non, ce n'était pas là. Ce n'était pas non plus dans la maison Mérillon, qui est une belle maison du quartier, c'était l'EHPAD Saint-Joseph, la maison de retraite. C'est là qu'était établie la seigneurie d'Ossun, dont les premières traces remontent au début du XIe siècle, on va dire l'an 1000, par là, même si on a quelques traces auparavant. Mais le premier seigneur identifié d'Ossun, il s'appelait Arnaut exactement, avec comme sobriquet l'ours, dit l'ours. On remonte sur sa présence au début du XIe siècle. Alors, il y a plusieurs dates, vous savez, on n'était pas fixé sur les calendriers. Des dates indiquent que c'était l'année 1011, d'autres 1042. Il était présent à la pose de la première pierre de l'abbaye de Saint-Pé de Généreste, c'est-à-dire Saint-Pé de Bigorre. Voilà. Et puis, ensuite, un autre seigneur, son fils ou son petit-fils, j'ai oublié, était présent en 1096 à l'inauguration. Alors, vous voyez, il a fallu quand même 50 ans pour construire cette abbaye, voilà. Saint-Pé de Bigorre, qui était avant Lourdes, un lieu de guérison. Une éminence du sud-ouest avait été guérie là. Il avait fait vœu de venir bâtir une abbaye dans cet endroit, Saint-Pé de Généreste, le Saint-Pé des deux génies. Voilà.
Ce château, hein, vous l'avez reconstitué, vous avez mené une enquête et vous avez essayé de reconstituer les plans travers...
Ça a été un travail de longue haleine. Alors, on a commencé par des photos, on a continué par des documents d'archives, archives diocésaines, archives départementales, archives du château de Pau aussi, des documents aussi que nous ont fournis les sœurs de Cantal. Je leur dis merci pour l'occasion. Et donc, on a croisé toutes ces informations, on est allé sur place, bien sûr. Bien sûr, il y avait la connaissance de l'établissement que pouvaient avoir les uns et les autres, des archives aussi de la maison Mérillon. Et donc, on est arrivé avec l'aide, et plus que l'aide, la complicité de Thibaut de Rouvray, qui est conservateur, président de la Société académique des Hautes-Pyrénées. Je lui dis bonjour aussi. Et donc, on est arrivé avec sa plume à reconstituer le château, et j'espère qu'il sera sur la couverture de l'ouvrage, parce que je vais découvrir dans les heures qui viennent la tournure définitive de ce document.
Voilà, ce livre qui va sortir donc au mois d'avril, on rappelle qu'il y a une souscription qui est ouverte, ça permet d'avoir un prix avantageux, puis pour vous de connaître le nombre d'exemplaires à imprimer. Mais c'est vrai durant la Révolution, ce que ne savent pas forcément les auditeurs, c'est que pendant la Révolution, Haussin avait changé de nom.
Oui, Haussin avait changé de nom. Alors, vous savez, le fil rouge de cet ouvrage, c'est la construction de l'église, puisqu'on est parti il y a 3 ans. On avait fait un colloque, une expo, etc. Et d'autres, pour commémorer ses 150 ans, c'est un chiffre rond, c'est pas rien. Et donc, on nous a dit, ce serait bien de le mettre par écrit. Et donc, on a travaillé dans ces 3 dernières années, on a engraissé le cochon, je vous disais tout à l'heure. Et donc, on s'est intéressé à un tas de choses. Et alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de matière autour de la Révolution à Haussin. Par-delà les églises successives qui sont arrivées les unes après les autres à l'endroit où est la paroissiale aujourd'hui. Et donc, on s'est intéressé à la vie du village, et en s'intéressant à la vie du village, bien sûr, on est arrivé à la Révolution. Et qu'est-ce qui s'est passé à Haussin pendant la Révolution? Eh bien, entre autres choses, Haussin avait changé de nom sous l'influence du procureur du département, j'ai envie de dire, du représentant du peuple qui s'appelait Monestier du Puy-de-Dôme, oui. Et donc, il avait imposé que le nom d'Haussin soit banni des cartes et des calendriers, et qu'on l'appelle Beauvais de Paris. Alors donc, ça dure un temps, puisque Haussin a repris son nom initial. Alors pourquoi Beauvais de Paris? Eh bien, c'était pour supprimer ce nom des seigneurs d'Haussin, qui était la famille d'Haussin, des apostrophes, qui ont donné leur nom au village, ou le village leur a donné le nom, ça on ne le sait pas très bien. Et donc, Haussin s'appelait Beauvais de Paris pendant les révolutions. Et puis il y a aussi d'autres aspects à considérer, le costume, le fameux costume des Buriaïres et d'Haussin, était considéré comme trop aristocratique, alors il avait été aussi supprimé, interdit de porter ce costume trop aristocratique, mais d'autres affaires, les sonneries de cloches interdites, etc. Il y avait aussi, puisqu'on était autour de l'église, les fameux ateliers de salpêtre, le temple de la raison, temple de l'être suprême, atelier de salpêtre, et l'église, c'est la chose qui a le plus détérioré l'église, l'atelier de salpêtre. Pour le salpêtre étant... Alors nous, on a une mauvaise image du salpêtre. C'est le sel qui se trouve en bas du mur, des murs, et dont on essaie de se séparer.
Des propriétaires.
Ah oui, l'antise des propriétaires. Tandis que sous la Révolution, ça servait à faire de la poudre à canon, et donc on l'a récupéré, etc., etc.
Vous parliez il y a un instant de la construction de l'église d'Haussin, une église qui a été inaugurée en 1865. Une construction qui a duré à peu près 5-6 ans.
Oui, pour la construction de cette église, alors les débats au sein du conseil municipal étaient plus qu'intéressants. Alors, on en a toute une partie dans les archives municipales, et qui sont maintenant parties aux archives départementales. Il y a eu tout un tas de débats autour de cette église. La raison essentielle, c'était qu'Haussin avoisinait les 4000 habitants. Dans les années 1820, par là, il y a eu une poussée démographique. Il n'y a pas qu'à Haussin qu'on faisait des enfants, on savait en faire ailleurs, et donc il y a eu une poussée démographique. Mais déjà avant cette date, se posait la question de la... parce que la population grandissait, de l'agrandissement de l'église. Voilà. Il y avait même l'évêque qui avait, Monseigneur Laurence, qui pousse à la roue, bien sûr, son neveu était curé d'Haussin à ce moment-là, qui avait menacé même de ne plus célébrer de certaines cérémonies si l'église n'était pas agrandie. Et donc, cette cette église qui a eu des devancières, et on s'est intéressé à ces devancières, et en particulier à la dernière. Alors, fallait-il l'agrandir ou fallait-il tout raser, en faire une autre? Voilà. Alors, on a commencé par... Il y a eu plusieurs plans. On a opté pour une restauration. Il fallait en même temps la restaurer et l'agrandir. Alors on a commencé par le chœur, qui est du côté ouest, alors qu'il devrait se trouver du côté est. Alors on a commencé par construire un chœur tout neuf, c'était la partie agrandissement. Et puis quand on est passé à la partie restauration de la vieille église, on s'est aperçu que les murs ne tenaient pas. Alors il a fallu tout raser. Et donc, en fait, on aurait fait mieux de partir sur une église toute neuve. Ouais. Mais enfin, ça s'est fait en plusieurs étapes. Et puis, ça s'est fait aussi, comme aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'était l'argent. Auxerre était une commune, contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'il y a de belles maisons. Mais l'argent, il était dans le portefeuille des propriétaires de ces maisons, des rouliers, des commerçants, etc. Et ils n'étaient pas dans les caisses de la commune, de la Bézia ou de la communauté, ni dans les caisses de la fabrique, qui était une sorte de conseil paroissial de l'époque. Et donc, il a fallu faire des coupes et des coupes. Et alors, on n'arrête pas de voir dans les délibérations municipales, coupe de bois extraordinaire. On va couper tant d'hectares de bois, de chênes, puisqu'il y avait pas mal de chênes au bois d'Ossun. Et on se demandait à la fin s'il y avait y avait-il encore une chêne de bois au bois d'Ossun, tellement on avait fait des coupes extraordinaires. Et heureusement que les chênes repoussent. Voilà.
Remplir les caisses. Voilà. Vous parliez des rouliers d'Ossun. C'est une anecdote intéressante. On peut peut-être en parler. Ça fait vraiment partie de l'histoire d'Ossun, les rouliers.
Les rouliers d'Ossun, les rouliers liburiaires. Ils sont un peu confondus, les rouliers liburiaires. Les Ossunois étaient réputés pour leur commerce de beurre et de fromage qu'ils allaient récupérer dans les vallées pyrénéennes, pas seulement sur les Hautes-Pyrénées, même en Béarn, du côté d'Arudil. Hein. Et ils récupéraient le beurre dans les fermes, tout ça. Ils l'amenaient à Ossun, ils le reconditionnaient. Parce que quelquefois, ils avaient des surprises. Quelquefois, on trouve un caillou dans la monte de beurre pour faire un poids plus... Ils allaient le récupérer dans les vallées, le reconditionner à Ossun. On le salait, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas les frigos ni les camions frigos. On le salait pour l'expédier et ça repartait vers d'autres destinations avec des chargements de haricots, avec des chargements de fromage, avec tout ce qui pouvait se vendre, avec des chaussettes même que vendaient que tricotaient les Ossunois. Parce qu'il y avait quand même un élevage de moutons considérable à Ossun. Alors il y avait aussi tout ce qui tourne autour de l'agriculture, hein, qui dit mouton dit laine, qui dit laine dit tissage, donc il y avait des tisserands, et qui dit tisserands, il faut des teinturiers aussi pour traiter la laine, etc. Je veux dire qu'il y avait tout ça. Et donc il y avait aussi, en même temps qu'on acheminait ce beurre dans les différentes villes, il y avait des entreprises parallèles, en complément ou à côté de rouliers, c'est-à-dire de transport. Hein. Alors, pour faire des transports, eh bien, il fallait des mules, il fallait des chevaux, et toutes les infrastructures, il fallait des charrons pour faire les camions, etc., etc. Et donc, les rouliers avaient une activité en dessous de la ligne Bordeaux-Toulouse-Narbonne, on va dire. Même si certaines écritures nous parlent de la renommée européenne des rouliers d'Ossun. Bon, je crois que celui qui avait écrit ça avait la plume un peu rapide, je pense. Oh, peut-être qu'il y a eu des exceptions. Peut-être qu'il y en a qui sont allés à Paris. Voilà. Mais bon, en général, ça se passait dans le sud-ouest. Et du reste, on a trouvé des écrits dans le sud-ouest et jusqu'à Narbonne, parce que quand même, le vin était quand même une chose que l'on transportait régulièrement. Et du reste, l'une des dernières caves d'Ossun était la propriété d'une dame de Narbonne. Voilà. Pendant les révolutions aussi, on a trouvé des documents dans lesquels le pouvoir départemental demandait aux rouliers d'Ossun d'aller chercher du grain à Bayonne. Du blé en particulier, parce qu'il n'y en avait pas suffisamment pour nourrir la population et en même temps faire les semailles. Voilà.
On vous écouterait pendant des heures, Bernard Sarès. C'est un aperçu du livre qui va sortir hein, dans quelques semaines. 350 pages de voyage à travers le temps et à travers l'histoire d'Ossun, de ce village d'Ossun, que je rappelle, qui se trouve entre Tarbes et Lourdes. Donc, on rappelle hein, que le livre sera disponible dans le courant du mois d'avril. À cette occasion, vous allez proposer une soirée de présentation. Mais dès à présent, la souscription est ouverte. On peut réserver et acquérir le livre à un prix préférentiel, 17 € au lieu de 20 €. Alors, si on souhaite se renseigner, comment on fait? On vous contacte?
Alors, on peut envoyer tout simplement un chèque à la mairie d'Ossun en indiquant que c'est pour le livre. Hein, on a une boîte aux lettres spéciale. Et sinon, on peut envoyer un mot à l'association Les Amis de Saint-Blaise, qui se trouve aussi, le siège se trouve à la mairie d'Ossun. Et on peut aussi souscrire à un numéro de téléphone, le 05 62 32 88 72.
Voilà, l'association Saint-Blaise que l'on trouve donc à la mairie d'Ossun. Saint-Blaise, hein, c'est le patron du village.
Tout à fait.
Hein, vous n'avez pas choisi le nom de l'association par hasard.
Tout à fait, comme le Saint-Blaise est aussi le patron de l'âne. Et Saint-Blaise est aussi le patron de Cadeillan-Trachère, là où nous avons trouvé un deuxième chef de guerre qui s'appelle Mesclin. Voilà,
tout ça, on va le retrouver dans ce livre qui va sortir dans quelques semaines. Hein. C'est un livre qui est proposé par des habitants d'Ossun qui se sont réunis donc à l'occasion de la commémoration de la construction de l'église d'Ossun. Vous l'avez dit, c'était en 2015.
Il y a 3 ans. 3 ans maintenant.
Voilà. Merci beaucoup Bernard Sarès. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des Amis de Saint-Blaise. Voilà, vous êtes intéressé à l'histoire de votre village, une histoire qui est passionnante. On aura le plaisir, si vous êtes d'accord, de se retrouver prochainement sur les antennes de Radio Présence. Merci beaucoup d'être venu jusque dans les studios et à très bientôt.
Avec plaisir, merci.